I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle est devenue l'une des figures de la lutte contre le racisme et les violences policières. Le 2 juin, avec son collectif, elle a réussi à rassembler des dizaines de milliers de personnes devant le palais de justice de Paris. Qui est Assa Traoré? Comment s'est-elle imposée dans le paysage médiatique en France? Réponse en deux épisodes dans Code Source avec deux journalistes du Parisien, Jean-Michel Descugis et Mayram Guisset. Le 10 juin, à Paris, dans le 10e arrondissement, Assa Traoré organise une conférence de presse dans la rue. Mayram Guisset, est-ce que vous pouvez nous décrire cette scène?
On est plusieurs journalistes présents, rue Louis Blanc, donc dans le 10e arrondissement. Deux tables sont installées sur lesquelles des nappes noires sont posées. Assa Traoré arrive, elle a son t-shirt « Vérité et justice pour Adama, sans justice vous n'aurez pas la paix ». Son afro, elle arrive avec une veste bleue électrique, on la voit dans ce climat, c'était un peu gris. Elle est entourée de Youssef Brakni, militant qui l'accompagne depuis très longtemps. L'Adjli, réalisateur du film « Les Misérables », et on voit au dos, donc à son dos, la fresque réalisée par J.R. où il y a l'œil de George Floyd tué donc aux États-Unis par des policiers, et ensuite l'œil d'Adama Traoré mort en juillet 2016 lors de son interpellation par les gendarmes à Persan.
Que dit Assa Traoré?
Assa Traoré prend la parole, elle revient sur la mobilisation du 2 juin, où selon la police, il y aurait 20 000 personnes, et selon Assa Traoré et le comité, plus de 80 000 personnes. Et là, Assa Traoré explique que le peuple français est descendu dans la rue et que la mobilisation doit se poursuivre.
On appelle à une mobilisation nationale, et s'il faut, chaque semaine, toutes les semaines, nous sortirons dans la rue.
Elle explique qu'une nouvelle mobilisation est prévue le samedi 13 juin à République et appelle le peuple français à se réunir à nouveau derrière elle et derrière le comité pour Adama Traoré et pour tous les Adama Traoré.
Et elle vient d'être invitée à se rendre au ministère de la Justice.
Elle vient d'être invitée et elle refuse avec sa famille de se rendre au ministère de la Justice.
On ne demande pas à ce que les discussions se fassent dans un salon de thé de l'Élysée, mais on demande que les actes judiciaires soient faits.
Elle explique qu'elle ne veut plus de paroles, mais des actes.
Avant d'aller plus loin, Mayram Guisset, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Assa Traoré?
Assa Traoré, elle a aujourd'hui 35 ans, elle est mère de 3 enfants, éducatrice spécialisée. Là, elle a arrêté de travailler pour pouvoir se consacrer au combat, comme elle dit, pour Adama, et aussi pouvoir s'occuper de sa vie de famille.
On va raconter la vie d'Assa Traoré. Mayram Guisset, vous venez de la rencontrer pour un long portrait pour Le Parisien. Mais avant de parler d'elle, il faut évoquer son père, Mara Siré Traoré, né au Mali. Il arrive en France quand il a 17 ans. Mara Siré Traoré va d'abord travailler au service propreté de la ville de Paris, puis devenir ouvrier de chantier. Et il aura plusieurs femmes.
Leur père aura au total 4 femmes. 2 femmes d'abord de façon successive. Et ensuite, 2 coépouses qui se sont installées à Beaumont-sur-Oise, dans le Val-d'Oise.
Le père d'Assa Traoré est donc polygame, il aura 17 enfants. Comment est-ce qu'elle vit ça, Assa Traoré?
Assa Traoré, elle explique qu'elle vit très bien le fait d'avoir une famille nombreuse avec plusieurs femmes. Elle explique que justement leur père a fait en sorte que la famille soit unie, qu'il n'y ait pas de différence entre les frères et sœurs et que chacun ait sa place dans la famille. Ils ne disent jamais demi-frère, demi-sœur, c'est même une insulte pour eux, c'est on est tous frères et sœurs. Elle explique que les épouses de son père sont ses mères, donc elle dit « j'ai 4 mères et j'ai 16 frères et sœurs ». Les deux premières femmes étaient françaises, les deux autres femmes étaient du Mali, originaires du Mali. C'est une famille très mixte, métissée, et ils ne font pas de différence entre eux.
Où grandit Assa Traoré ?
Assa Traoré grandit à Beaumont-sur-Oise, dans une petite commune du Val d'Oise, dans le quartier de Boyenval. C'est des petits bâtiments de 4-5 étages, très tranquilles, plutôt paisibles. Hein. On est loin de l'image d'une cité avec des grandes tours. Ça peut surprendre certains journalistes quand ils arrivent, mais vraiment, c'est un quartier calme où la famille vit tranquillement.
Mara Siré Traoré meurt d'un cancer en 1999 quand Assa a 14 ans.
Elle explique dans son livre à quel point en fait ça a été très très dur pour elle, mais aussi pour toute la famille. C'était un élément très très fort. Alors très tôt, il leur disait surtout de toujours prendre soin des uns des autres et que si un jour un malheur arrive à l'un d'entre eux, il fallait qu'ils soient solidaires. Le vide laissé par son père est difficile, mais en même temps, elle s'occupait déjà de ses petits frères et sœurs, notamment à la naissance d'Adama Traoré et Awa Traoré, qui est sa jumelle. Elle s'occupait tout le temps d'Adama Traoré, elle a un peu ce rapport mère aussi à son petit frère, et elle est un membre de la famille très actif, donc avec des responsabilités. Très tôt, elle sait par exemple qu'elle veut être éducatrice spécialisée, un jour où un éducateur spécialisé fait une intervention dans sa classe.
Elle est éducatrice spécialisée à Sarcelles quand sa vie bascule à l'été 2016, le 19 juillet 2016. On va rappeler les circonstances de la mort d'Adama Traoré. Avec vous, Jean-Michel Descugis, vous faites partie du service police-justice du Parisien. Ce 19 juillet 2016, les gendarmes cherchent l'un des frères d'Adama Traoré. Pourquoi est-ce qu'ils le recherchent d'abord ?
Les gendarmes le recherchent sous réquisition judiciaire dans une affaire d'extorsion de fonds sur une personne vulnérable. On le soupçonne d'être rentré avec 3 personnes dans la maison d'un couple dont la femme était sous curatelle et d'avoir violenté ce couple et de leur avoir volé un peu d'argent et des objets de valeur.
Ce frère, c'est Bagui Traoré et il sera condamné pour cette affaire.
Bagui Traoré sera condamné à 30 mois quelques années plus tard.
Adama Traoré, lui, il a déjà fait de la prison ?
Il est connu dans la ville par les services de gendarmerie notamment, mais aussi de la police. Il est, comme on dit, inscrit aux otages, hein, c'est aux antécédents judiciaires. Et il a fait de la prison, un court passage en prison, en détention provisoire.
Que se passe-t-il ce jour-là à Beaumont-sur-Oise ?
Alors, on est en plein après-midi. 3 gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de gendarmerie de l'Isle-Adam repèrent Bagui Traoré près d'un bar. Il est accompagné d'Adama Traoré, qui est avec son vélo. Alors, les gendarmes disent à ce moment-là qu'ils ignorent qu'il s'agit d'Adama Traoré. Bagui Traoré va se laisser interpeller sans résistance, mais Adama va s'enfuir en courant aussitôt. Il est pris en chasse par 2 des gendarmes. L'un d'entre eux va le rattraper à peu près 450 mètres plus loin, dans un parc au centre-ville, va le mettre à terre, le maintenir avec, selon un témoin, son genou dans le centre du dos et mettre ses mains dans le dos. Le deuxième gendarme va arriver et va parvenir à le menotter. Ensuite, ils vont le relever et ils vont prendre la direction de la voiture de la gendarmerie. Sur le chemin de retour, il va demander de faire une pause parce qu'il est très essoufflé. Il a décliné son identité. C'est là que, soi-disant, les gendarmes apprennent qu'il s'agit d'Adama Traoré. Et il va se reposer quelque temps. Il n'y a plus qu'un gendarme qui le surveille. Et là, un homme, semble-t-il une connaissance d'Adama Traoré, va intervenir, va s'interposer pour libérer Adama Traoré. Le gendarme va frapper au visage cet homme. S'ensuit une bousculade. Ils vont se retrouver à terre. Adama Traoré va en profiter pour s'enfuir une nouvelle fois. Et ce tiers qui est intervenu va aussi s'enfuir une autre fois. Et là, il est 17h14. Le gendarme qui reste appelle en renfort une patrouille.
Où s'enfuit Adama Traoré ?
Un quart d'heure plus tard, un autre appel de radio dit qu'on l'a repéré. Rue de la République, c'est à 250 mètres à peu près de l'endroit d'où il s'est échappé. Et en fait, il s'est réfugié chez une connaissance. Cette connaissance est avec son fils. Il est devant son appartement quand les gendarmes arrivent. C'est un autre peloton de gendarmerie qui intervient. Et cet homme est décrit comme ayant très peur, est effrayé, a peur de représailles. Et il dit qu'Adama Traoré est chez lui. Il va rester à l'extérieur de son appartement. Et là, on va se retrouver dans un huis clos. Et donc, on a la version que des gendarmes.
Donc, Adama Traoré est à l'intérieur de ce logement avec des gendarmes. Que se passe-t-il ?
Les gendarmes décrivent que quand ils rentrent, Adama Traoré est dans le salon, caché sous un drap bleu. Il fait très noir. Et là, un gendarme raconte qu'il se jette sur lui. Et les deux autres gendarmes se jettent sur lui. Et il raconte, là, à ce moment-là, ce gendarme, que Adama Traoré va prendre le poids des trois corps des gendarmes sur le dos. Ensuite, ils reviendront 10 jours plus tard sur leur version, notamment ce gendarme qui dira que la pression n'était pas si forte et qu'il a fait ce qu'on appelle un contrôle corsal et dorsal. C'est-à-dire qu'il dit qu'il a mis son genou droit au centre du dos d'Adama Traoré et son genou gauche sur le côté et qu'ensuite les deux autres gendarmes ont pris chacun un bras. Les gendarmes le menottent et puis il est amené à la voiture. Alors il est visiblement fatigué, il se lève péniblement, il a quelques mètres à faire et là on le met à l'arrière de la voiture. Un des gendarmes dit il s'est assoupi. En fait, il semble bien qu'il ait perdu connaissance puisqu'il va uriner sur lui. On va le sortir de la voiture quelques minutes plus tard puisque le trajet entre où on l'a interpellé et la caserne de Persan est à seulement un kilomètre. Donc c'est vraiment un bref trajet. Le gendarme va avertir les autres. On va le sortir de la voiture en le tenant. Et là, on va l'allonger à même le sol sur une place en béton et en position, selon les gendarmes, en position latérale de sécurité.
Et donc, que se passe-t-il dans la cour de la caserne de Persan ?
Dans la cour, on va le laisser menotter dans le dos, malgré son malaise, parce que, en fait, les gendarmes disent qu'ils ont l'impression qu'ils simulent. Quand les pompiers vont arriver à peu près 6 minutes plus tard, parce que les gendarmes appellent des pompiers malgré qu'ils pensent qu'ils simulent, un des pompiers, le plus expérimenté, va dire qu'il trouve Adama le ventre contre le sol, la tête à même le sol, les mains menottées dans le dos. Il va demander aux gendarmes de le détacher, et un gendarme va refuser en disant qu'il simule. Et une deuxième fois, ce pompier va demander à ce qu'on le détache, et là, on va le détacher. Les pompiers appellent le SAMU, qui va arriver assez en retard, parce qu'il y a un problème d'adresse, ils se trompent d'adresse, en fait. Et ils arrivent à 18h19, il va y avoir des opérations de réanimation pendant plus d'une heure, mais ça sera en vain.
Une chose est certaine, Jean-Michel Lécugis, d'après les autopsies, c'est qu'Adama Traoré est mort d'une asphyxie.
Oui, c'est la seule certitude qu'il y a dans le dossier d'un syndrome asphyxique. La première autopsie évoque des lésions d'allure infectieuse.
Une infection.
La contre-autopsie, qui arrive quelques jours plus tard, elle ne parle plus que de syndrome asphyxique et balaye cette infection.
Si on revient juste après la mort d'Adama Traoré, Mayram Guissé, dans les heures qui suivent, les gendarmes ne vont pas tout de suite dire ce qu'il s'est passé à la famille Traoré.
Effectivement, les gendarmes n'expliquent pas tout de suite ce qui se passe à la famille Traoré. La mère d'Adama Traoré se rend à la gendarmerie parce qu'on lui explique que son fils a été interpellé et qu'il ne serait pas bien. Elle s'inquiète, elle va demander qu'est-ce qui se passe et on refuse d'abord de lui répondre. Pendant plusieurs heures, on ne lui dit pas que son fils est mort. Donc, dans la famille, ils sont dans l'incertitude, le flou, l'inquiétude. Elle ramène un sandwich, je crois que c'est un kebab pour son fils. Elle retourne chez elle, mais on lui redit à nouveau que ça va pas, qu'Adama ne va pas bien. Ça, c'est des bruits dans le quartier, et donc elle y retourne. Il a fallu vraiment insister avant qu'une personne de la gendarmerie annonce à la famille le décès d'Adama Traoré. Hélas, c'est le drame pour toute la famille.
Quand elle apprend la mort de son petit frère, Adama, Assa Traoré se tape la tête contre les murs.
Elle ne comprend pas. Elle est justement avec un groupe de jeunes en vacances en Croatie. Elle les a amenés en vacances dans le cadre de son travail d'éducatrice spécialisée. Et elle reçoit, je crois que c'est un appel qui la plonge pendant un temps dans le noir. Elle se dit que c'est pas réaliste, quoi. Donc elle veut qu'une chose, c'est revenir à Beaumont-sur-Oise, être auprès de sa famille. Mais voilà, c'est un basculement.
Jean-Michel Descugis, que dit le procureur sur les circonstances de la mort d'Adama Traoré ?
Bien, le procureur Yves Janier va un peu parler hâtivement, alors que les investigations n'ont pas commencé. Il va dire qu'Adama Traoré est décédé suite à un malaise, en excluant in facto le rôle des gendarmes, en tout cas la responsabilité éventuelle des gendarmes. Quelques jours plus tard, il va parler d'une infection très grave dont souffrerait Adama Traoré et il ne mentionne pas d'asphyxie. Or, la contre-expertise qui arrive tout de suite derrière parle d'asphyxie et balaie cette histoire d'infection. Donc, à ce moment-là, la famille, mais aussi les avocats, la presse, a l'impression que Yves Janier cache quelque chose, ne dit pas toute la vérité. Et l'avocat, Maître Bouzerou, de la famille, va obtenir le dépaysement de l'affaire qui va être transféré à Paris et trois juges d'instruction vont récupérer le dossier.
Après la mort d'Adama Traoré, des émeutes vont avoir lieu plusieurs soirs de suite à Beaumont-sur-Oise. Jean-Michel Descugis, que se passe-t-il pour les gendarmes qui ont participé à l'interpellation d'Adama Traoré ?
Rien. Disons qu'ils ne sont pas suspendus. Ils vont demander leur mutation qui sera acceptée. Et je crois même qu'ils vont recevoir une prime. Alors pas pour évidemment avoir interpellé Adama Traoré, mais ils vont recevoir la prime que tous les gendarmes reçoivent.
Merci à Jean-Michel Descugis et Myram Guisset. Dans le prochain épisode de Code Source, nous verrons comment Assa Traoré va réussir à fédérer autour d'elle pour arriver à la manifestation d'ampleur du 2 juin à Paris. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Stéphane Geneste et Myrène Garaïco-Echea, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.